Chers auditeurs, nous avons dit la dernière fois que les ordres religieux apparus au XIIIe siècle n'ont pas tardé à s'implanter au diocèse de Bayonne. Depuis le siècle précédent, et selon leur vocation, les prémontrés évangélisaient la campagne basque à partir de leur couvent de Laonce. En 1210, l'abbaye d'Artus va fonder le couvent d'Urdax, qui, au cours des siècles, deviendra à son tour une abbaye importante. La vocation des dominicains et des franciscains était l'évangélisation des bourgs, alors en pleine expansion en Europe. Ils vont donc s'établir à l'intérieur de la ville de Bayonne, là où il y avait un peu d'espace disponible, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Petit Bayonne. Les Carmes et les Augustins, qui voulaient éviter le bruit et l'agitation de la ville et qui cherchaient davantage le silence, choisirent plutôt la banlieue bayonnaise. Mais Bayonne deviendra plus tard un enjeu dans les guerres entre la France et l'Espagne et les exigences de la fortification de la ville les obligeront à se réfugier à l'intérieur des murs. Très rapidement, les ordres religieux implantés à Bayonne seront adoptés par la population et leurs maisons vont connaître une fréquentation assidue des fidèles. Ce qui faisait de l'ombre à l'église paroissiale, c'est-à-dire à la cathédrale et au chapitre qui était le curé de la ville. Ces couvents avaient chacun son église et une cloche pour appeler les fidèles aux offices, ce qui était déjà fort ennuyeux. Ils avaient aussi un cimetière, et c'est lui qui deviendra cause de difficultés et source de conflits. Beaucoup de fidèles, en effet, demandaient à être ensevelis dans un de ces cimetières, et souvent d'ailleurs revêtus de l'habit de l'ordre. Ils estimaient que cette proximité du couvent et de sa vie, ainsi que cette tenue religieuse, pouvaient leur valoir des biens spirituels plus grands et plus immédiats. Des accords seront conclus entre les couvents et l'autorité diocésaine pour résoudre les conflits ou du moins les prévenir. Ainsi, le 16 mai 1264, les Carmes signent un accord avec l'évêque et les chanoines de Bayonne au sujet de leur activité pastorale. Au terme de ce compromis, il leur est accordé la faculté de donner une sépulture dans leur cimetière, après l'office célébré dans leur église, à ceux qui en feraient la demande. Cependant, des conditions assez strictes leur étaient imposées, par exemple, celle de présenter auparavant le corps du défunt à la cathédrale, et ce n'est qu'ensuite qu'ils pouvaient faire les obsèques et ensevelir le défunt dans leur cimetière. Le jour de l'Épiphanie 1242, une transaction fut adoptée par le ministre de la province franciscaine d'Aquitaine et l'évêque de Bayonne, assisté de son chapitre. L'accord portait sur la jouissance d'un oratoire que l'évêque et les chanoines possédaient au bord de la Nive. Ces derniers renonçaient à leurs droits sur ce lieu de culte en faveur des cordeliers. Mais ces derniers s'engageaient à ne pas recevoir d'offrande au cours de la messe. Nous avons déjà évoqué cette façon de participer à la messe. Si ce n'est, selon la coutume établie, le Vendredi Saint, d'offrir l'encens, le vin et d'autres choses semblables servant à orner l'église. Donc ici, le contentieux ne portait pas sur des questions de sépulture. L'accord faisait remarquer que ceux qui ont choisi de servir le Seigneur, il convient qu'ils ne soient pas ennuyés par les agissements de certains, mais qu'ils jouissent librement de la paix et de la tranquillité. C'est d'ailleurs ce qui ne tracassait guère les dominicains, qui avaient la réputation d'être particulièrement turbulents. Un différend avec le clergé local surgit vite après leur arrivée sur cette question cruciale, avait-il le droit d'admettre les demandes d'obsèques religieuses qui leur étaient adressées. Une convention signée en 1265 entre le provincial d'Aquitaine et un chanoine de Bayonne régla ce point litigieux, mais pas pour longtemps, car de nouvelles difficultés surgirent, plus graves que les précédentes, puisque la prière des dominicains fit appel au pape Nicolas IV, qui était d'ailleurs un ancien franciscain. Et celui-ci, le 27 avril 1292, chargea l'évêque de Toulouse de régler le différend. Les ordres religieux nouveaux avaient le vent en poupe et pas seulement à Rome. Ce fut le chapitre qui perdit le procès. À part la Hanse avec les prémontrés, l'intérieur du Labour et de la Basse-Navarre était plutôt démuni de communautés religieuses. Les ordres hospitaliers y étaient cependant présents grâce aux hôpitaux qu'ils y avaient fondés. Mais la forme de vie consacrée que pratiquaient les donats ne s'originait pas dans le pèlerinage. Celui-ci l'avait favorisé car les hôpitaux avaient besoin de main-d'œuvre. Les hospitaliers eux-mêmes étaient très probablement peu nombreux dans ces maisons. Par contre, le nombre des donats va grandir et leurs maisons vont peu à peu se regrouper autour de l'église ou de l'hôpital sans que leurs occupants y mènent la vie conventuelle. Par exemple, dans la paroisse de Saint-Michel-le-Vieux, passage obligé pour les pèlerins allant de Saint-Jean-le-Vieux au col de Roncevaux, existaient des frères donats qui se donnèrent à l'ordre de Saint-Jacques, portèrent son insigne et vécurent de la spiritualité des hospitaliers de Jérusalem. Le problème important qui se posait aux évêques et aux chanoines, c'était la construction de la cathédrale. Nous l'avons dit, pour Raymond Donzague, il employa la longue durée de son épiscopat à avancer l'édifice de son église. Il semble que ses travaux avançaient lentement. Par testament, en 1302, Dominique de Mans, évêque de Bayonne, avait prévu un legs pour continuer la construction de la cathédrale. Nous en parlerons plus longuement la prochaine fois.